Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. L'info locale et régionale. Au sommaire de notre édition. Signature d'une convention entre le syndicat de traitement des eaux usées Saône-Beaujolais et l'agglomération de Villefranche dans le cadre de la construction d'une unité de méthanisation où seront traités des déchets organiques utilisés pour fabriquer du biogaz. Les détails avec Frédéric Pronchéry, président du syndicat de traitement des eaux usées Saône-Beaujolais. Le CITO. Puis, découverte de la 14e édition des R, les Assises internationales du roman, du 11 au 17 mai prochain. Un événement conçu par la Villa Gilet en co-réalisation avec les subsistances à Lyon. Avec nous, Léa Rumise, chargée des médiations pour la Villa Gilet de Lyon. Elle présentait le pré-programme à la médiathèque à Villefranche dernièrement, partenaire de l'événement. Et pour conclure, le thème du fait du mois, interrogé sur l'aveuglement devant les catastrophes climatiques telles que l'Australie, notre Tchernobyl climatique. L'entretien était animé par l'historien lyonnais François Boursier dans le cadre du cycle de conférences à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à Villefranche. Calade, le journal. C'est dans une petite pièce située à l'étage 1 du côté de l'ascenseur à dans les tréfonds de l'hôpital de la Citadelle sur les hauteurs de Liège que le docteur François Damas reçoit une demi-journée par semaine les malades atteints par une affection grave et incurable lui ayant adressé une demande d'euthanasie. Depuis que l'écrivaine Anne Behr, atteinte de la maladie de Charcot, a médiatisé à l'automne 2017 son choix de venir mourir en Belgique, les sollicitations venues de France ont fortement augmenté, avec un ou deux appels par semaine contre un tous les 6 mois auparavant, constate ce praticien âgé de 65 ans. Ces demandes émanent en majorité de personnes atteintes de pathologies neurodégénératives ou de cancer, insatisfaites de la loi française ou des conditions de sa mise en œuvre qui n'autorisent une sédation profonde et continue jusqu'au décès que dans les tout derniers temps de la vie. À notre demande, nous dit le journal Le Monde, le médecin parcourt les dernières requêtes reçues par email. Certains sont lapidaires. Bonjour, Français de 42 ans ayant une ataxie. Tout me fatigue. Comment profiter de vos services? Point d'interrogation. Je peux payer plusieurs milliers d'euros si vous venez à... S'ensuit un échange où le docteur Damas explique au patient qu'il devra nécessairement venir faire une première consultation en Belgique, que son médecin traitant en France devra donner son avis et que même si la loi belge ne le prévoit pas, ses proches devront être prévenus. Article de François Béguin pour le journal Le Monde. Signature d'une convention entre le syndicat de traitement des eaux usées Saône-Beaujolais et l'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône dans le cadre de la construction d'une unité de méthanisation où seront traités des déchets organiques comme les boues de stations d'épuration et de gisements liquides issus de la localité. Les matières organiques ont pour utilité de fabriquer du biogaz réinjecté dans le réseau GRDF. Les détails avec Frédéric Pronchéry, président du syndicat de traitement des eaux usées Saône-Beaujolais, le CITO. Alors une grande opération avec une signature de convention entre 3 territoires pour la production de biogaz. Vous allez nous expliquer un petit peu cette opération.
De construire une unité de méthanisation qui va, à partir de déchets organiques, fabriquer du biogaz qui sera injecté directement dans le réseau de GRDF. Et donc ces déchets organiques sont composés d'un socle qui sera les boues de station d'épuration dans un rayon d'environ 30 km autour de Belleville et de gisements liquides de la distillerie du Beaujolais. L'autre moitié sera portée par les concessionnaires qui seront choisis, ou en tout cas les grands groupes qui vont répondre à ce projet, qui vont apporter eux des déchets organiques issus de l'agroalimentaire principalement. Et on a une autre vertu du dossier, c'est qu'on a impliqué et on implique très fortement actuellement le monde agricole, qu'il soit de la Chambre d'agriculture de l'Ain et du Rhône, de façon à ce qu'ils soient associés très étroitement à ce projet avec leur propre gisement à eux.
L'intérêt effectivement de cette manœuvre en quelque sorte pour le territoire, 3 territoires.
Oui. Alors le premier bénéfice c'est bien évidemment l'environnement. L'État a une belle vision, ce qui n'est pas toujours le cas, d'avenir, c'est-à-dire de rendre énergétiquement indépendant la France en gaz. c'est-à-dire plus d'importation de gaz à l'horizon de 2050, si on construit assez de méthaniseurs qui injecteront directement dans le réseau. Et donc le gaz deviendrait français, serait produit à partir de déchets de l'agroalimentaire ou des gisements que j'ai décrits tout à l'heure, et qui deviendrait donc du biogaz. Quand on parle des énergies renouvelables, le biogaz produit à partir de déchets tels que ceux-ci, c'est du gaz environnemental, puisque ce n'est pas une énergie fossile.
Alors la question bien évidemment environnementale, mais celle peut-être de baisser le coût effectivement énergétique en quelque sorte.
Alors c'est des unités industrielles qui sont quand même complexes. Je ne sais pas si on peut parler de baisser le coût, en tout cas dans l'immédiat. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on sait que les énergies fossiles vont devenir de plus en plus chères. Pourquoi ? Parce qu'actuellement on a un coût de l'énergie qui est peu cher en France, voire dans le monde, parce qu'on ne prend jamais en compte l'impact environnemental qu'il a pour son extraction. On calcule juste le coût d'extraction, mais l'impact environnemental est très très fort, que ce soit sur le nucléaire, sur les énergies fossiles qui sont le pétrole, le gaz, etc., les gaz de schiste. Et donc bien sûr que le coût fera que des unités comme ça produites à partir de ce qu'on appelle des déchets actuellement, mais bientôt il n'y aura plus de déchets, il n'y aura que des matières valorisables, le coût va se croiser à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que les énergies fossiles, dans les décennies qui viennent, vont continuer de croître en termes de coût et baisser en termes de gisement. Et puis des unités comme celle-ci vont permettre d'avoir un coût maîtrisé, voire amoindri dans les années qui viennent. Bon, pour ceux qui connaissent, on a une station d'épuration qui est située en centre-ville à Belleville. C'est quand même pas fréquent qu'une station d'épuration soit située quasiment dans un centre-ville. Ça va ressembler à un bâtiment un peu de ce type, sauf que vous avez la cuve de fabrication du biogaz, donc ça ressemble à un cylindre avec un toit arrondi. Voilà, il y en aura sûrement deux, on appelle ça des digesteurs, et puis vous aurez une partie de bâtiment où on réceptionne les marchandises. Ce type d'outils industriels, ça ressemble, le bon parallèle, c'est la station d'épuration de Belleville, où maintenant il y a des animaux autour, des animaux brouteurs, il y a des ponettes, il y a des oies bernaches, elle est éclairée, donc elle participe à l'embellissement de la ville. On a montré qu'un site industriel pouvait être non seulement participer à l'intégration paysagère dans une commune, n'apporter aucune nuisance, puisque la station de Belleville, depuis 2011, n'a jamais produit une seule odeur désagréable. Et donc, le but, c'est de reproduire. Alors là, dans un site industriel, bien identifié, donc là, il n'y a même plus d'habitation ou de commerce autour, mais de reproduire un site industriel qui n'apporte pas de nuisance et qui, en même temps, s'intègre bien architecturalement ou paysagèrement.
Et au niveau du transport, effectivement, parce qu'il va bien falloir amener cette production jusqu'à l'entreprise.
Oui. Tous ces gisements, ils sont déjà transportés, mais ils font des fois bien plus de kilomètres. C'est-à-dire qu'en France, tous ces gisements, des fois, traversent la France entière pour être traités dans d'autres endroits. Là, l'idée, c'est de raccourcir ces transports de manière à ce que localement, on soit capable de traiter nos déchets à nous. Chacun doit d'abord s'occuper de ses problématiques. Et donc, si on limite les déplacements à notre périmètre proche de la communauté de communes ou des communautés de communes qui sont autour de Belleville, on fait déjà une amélioration sur l'impact environnemental du transport. On produit du biogaz, on va en produire environ, alors c'est des estimations, 200 mètres cubes par heure, donc c'est des productions importantes. Ce biogaz, il est épuré ensuite, quasiment sur le site. C'est une installation particulière qui permet de l'épurer pour avoir du biométhane, qui lui a la même caractéristique que le gaz qui circule déjà dans le réseau de GRDF ou de GRT. Il sera injecté à 100% dans ce réseau-là. Voilà, il est utilisé, il se mélange avec l'eau de gaz et il a les mêmes caractéristiques. C'est le même, sauf qu'il est bio.
C'était Frédéric Pronchéry, président du syndicat de traitement des eaux usées Saône-Beaujolais, le CITO, dans le cadre d'une signature d'une convention entre le STEUBB et l'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône dans le cadre de la construction d'une unité de méthanisation dont les déchets organiques seront utilisés pour la fabrication du biogaz et réinjectés dans le réseau GRDF en 2023. Découverte de la 14e édition des R. Les Assises internationales du roman du 11 au 17 mai prochain, un événement conçu par la Villa Gilet en co-réalisation avec les Subsistances à Lyon, avec Léa Rumiz, chargée des médiations pour la Villa Gilet de Lyon, qui présentait dernièrement le pré-programme à la médiathèque Pierre Mendès France à Villefranche, partenaire de l'événement.
Alors, donc, comme chaque année, voilà, les Assises du roman sont construites autour de tables rondes qui auront lieu tous les jours aux subsistances à Lyon et également toute une série de rencontres en médiathèque à Lyon, dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année, on a beaucoup de jeunes romanciers, quelques primo-romanciers même. Il y a beaucoup à la fois de littérature de fiction et également de non-fiction, autour notamment de l'investigation, par exemple, des littératures ethnologiques également. Et une nouveauté également cette année, puisque 2020 est l'année de la BD et donc nous aurons quelques BDistes également qui participeront aux Assises internationales du roman et c'est une première.
Les invités sont plus dans un cadre effectivement de l'actualité, de l'information, enfin des mouvements du moment. Quelles sont leurs réflexions ?
Alors c'est vrai que sur quelques-unes de ces tables rondes, on est beaucoup sur des auteurs qui observent le monde dans lequel on vit. Il est beaucoup question de non-fiction, donc il est question de faits divers et comment est-ce que cela peut influencer notre manière de penser. Il est question, comme je l'ai dit, de fiction ethnologique, donc d'observation d'autres peuples et de bouleversements du monde. Il est question de voyage, de notre rapport au monde, de notre rapport au temps. Donc on est beaucoup voilà, sur de la littérature qui observe, qui nous observe nous en société et qui observe le monde dans lequel on vit.
Les Assises internationales du roman du 11 au 17 mai prochain, un événement conçu par la Villa Gilet en co-réalisation avec les subsistances à Lyon, partenaire de l'événement, la médiathèque Pierre Mendès France à Villefranche. Et pour conclure, le thème du fait du mois interrogeait sur l'aveuglement devant les catastrophes climatiques telles que l'Australie. Notre Tchernobyl climatique. L'entretien était animé par l'historien lyonnais François Boursier dans le cadre du cycle de conférences à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à Villefranche.
J'allais depuis 3 mois, mais ça aura brûlé pratiquement depuis le mois de septembre. Un intellectuel australien parlait carrément de Tchernobyl climatique en parlant de ces feux, de ces méga-feux qui ont touché une fois de plus l'Australie et qui a des conséquences absolument incommensurables, incroyables, impressionnantes.
Est-ce que les incendies donnent lieu à une prise de conscience ?
Ivan Illich disait toujours que c'était la catastrophe qui rendait visible l'invisible. Bon, les Australiens viennent de vivre une catastrophe. Est-ce que ça va pour autant leur rendre visible le changement climatique, le réchauffement du climat ? C'est pas sûr. En tout cas, au niveau des dirigeants, on peut même penser qu'ils n'ont pas cessé de prendre des décisions qui allaient à l'encontre de la limitation des gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Et dans les interviews que donnaient certains membres du gouvernement australien, ils n'hésitaient pas, il y a quelques semaines encore, à faire porter la responsabilité sur les pyromanes. Alors au niveau de la population, il y a un vrai mécontentement parce qu'ils ont le sentiment que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Mais est-ce que véritablement ils ont pris conscience qu'il y avait une relation de cause à effet entre le changement climatique et les méga-feux qui brûlent l'Australie, ça fait plusieurs années de suite. À voir. En tout cas, certains le font, puisque derrière ces méga-feux, il y a un problème qui frappe depuis 3 années consécutives l'Australie, c'est la sécheresse.
Prochain rendez-vous des conférences du fait du mois, le jeudi 19 mars à 18h30 à la Cantalade à Villefranche. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.